France Culture.
La vie des gens recèle toujours une part d'ombre, mais tout va si vite aujourd'hui qu'on n'a plus le temps de rêvasser, de s'imprégner du mystère du monde. David Lynch, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. S'imprégner du mystère du monde, une bien périlleuse et aventureuse rêverie, c'est ce que fera ce soir Mauvais Genre, sous la conduite de l'auteur d'Inland Empire, des analyses de scène et de son menées par l'équipe et tirées de Blue Velvet et de Lost Highway, signé Sixtine Audebert, Philippe Rouillet, Fausto Fazulo et Stéphane Duménildo, chronique en second temps d'émission, signé Philippe Rouillet et Sixtine Audebert. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre Cinéma. Ce soir, eh bien, dans la semaine, le samedi de son décès, nous avions évoqué la figure et l'œuvre de David Lynch en compagnie de Paco Mtielban. J'avais annoncé une émission spéciale d'hommage et d'analyse cinéphilique de son œuvre. C'est ce que nous allons faire ce soir en votre compagnie et en la compagnie de Stéphane Duménildo. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Stéphane Duménildo, vous êtes déjà venu nous voir pour ma foi, l'Empire des Sens, pour de bien inquiétantes choses. On ne dira pas sur quoi vous travaillez aujourd'hui, mais non, en tout cas, c'est un secret, passionnant secret d'ailleurs. Mais ce soir, vous êtes avec nous donc pour évoquer, au travers d'une scène, on ne dit pas encore laquelle, on garde le mystère, la personnalité et l'œuvre de David Lynch. Soyez le bienvenu.
Merci.
Sixtine Audebert, bonsoir.
Bonsoir François.
Actualité de l'éditrice en ce moment.
Actualité, préparation d'un livre sur le cinéma, mais je n'en dirai pas plus pour l'instant.
Très bien, ben décidément, c'est les grandes émissions du secret. En tout cas, avec vous, on va voir différentes musiques requises par Lynch tout au long de ses films. Bonsoir Philippe Rouillet.
Bonsoir.
Actualité de Philippe Rouillet.
Bah, il s'agit de toujours de faire vivre notre chère revue positive.
Bah, oui, donc, très bien, c'est voilà, noble.
On commence à s'activer sur le numéro de mai.
Voilà, très bien. Et de même que Fausto Fazulo, j'imagine.
Bonsoir,
qui s'active
François.
Sur quel numéro?
Bah,
deux revues, il y a Mad Movies et
on s'active déjà sur le numéro d'avril. Voilà.
Bon, bah, c'est déjà bien.
Donc c'est déjà pas mal.
Et le numéro spécial Lovecraft, que je recommande évidemment à tout le monde.
Tout à fait.
Il se porte bien.
Il se porte bien. Sa version premium cartonnée vient tout juste de sortir. Et effectivement, l'ouvrage rencontre ses lecteurs et ses lectrices.
Eh ben, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter de pire. Et je salue Laurent Polleret aux manettes, bien évidemment, et Anthony Thomasson aux manettes. Également, on commence bien sûr par, eh bien ma foi, David Lynch, selon Laurent Polleret.
That's a piano, and someone at the, is that Angelo Badalamenti at the piano? Ah. Uh-huh. This might have been, it's just sort of the way Angelo and I work. Angelo, he can write almost anything. Classically trained, and the music is just in him. So, I like to do is talk to him and say words, and he plays the words. And if I don't like what I'm hearing, I just change the words. I change the words and the sound changes. And somewhere during this process, Angelo starts playing something that I light up, and then it's caught. It's caught. And then all he does is elaborate and go down that road. It's magical. And Angelo's like family. Yeah. Even if I don't talk to him, I'm communicating with him. Is this Federico Fellini and Marcello Mastroianni? You know, they made, you know, Fellini is, you know, everybody. This, you know, I don't know what would happen if Fellini was making 8.5 today. But luckily, he made it when he made it. And it's just, you know, cinema like nobody else.
La voix de David Lynch pour nous dire tout son amour pour Federico Fellini, qui faisait un cinéma comme nul autre au monde, et puis dire aussi tout le bien qu'il pensait de son musicien Angelo Badalamenti, Philippe Rouillet.
Bah oui, Angelo Badalamenti, c'est une énorme rencontre, hein, une rencontre qui a lieu sur Blue Velvet en 1986, et après, ils vont cheminer ensemble. Il n'y a que Inland Empire qui ne feront pas, mais ils se retrouveront quand même sur la saison 3 de Twin Peaks, qui est vraiment l'œuvre posthume et somme de David Lynch, et vraiment, c'est une collaboration vraiment au summum de l'histoire du cinéma entre musiciens et compositeurs. On a parlé de Bernard Herrmann, Hitchcock, de Nino Rota et de Fellini. C'est ce niveau-là, Morricone, avec une vraie interaction entre les moments. En fait, ils se sont rencontrés sur Blue Velvet parce qu'il l'avait engagé. Lynch avait engagé Badalamenti pour aider Isabelle Rossellini à chanter, puisqu'elle chante Blue Velvet, notamment dans le
film. Cabaret. Oui.
Et puis ils se sont très très bien entendus. J'ai une petite composition, vraiment, et voilà. Et du coup, il a commencé à faire un morceau pour la musique du film. Et à partir de là, ça a été vraiment une entente. Et Lynch a souvent raconté comment son inspiration venait quand Badalamenti se mettait au piano, et à partir des notes de piano, lui commençait à voir des images qui allaient après nourrir son scénario. C'est de ce niveau-là qu'est là. C'est pas du tout un musicien qui arrive à la fin du tournage et qui dit bon, allez hop, je te mets un peu de musique là et là. C'est pas du tout ça. C'est carrément une collaboration qui va en amont des tournages.
Donc, à tous les présents ce soir, le choix d'une scène, d'un extrait d'un film de David Lynch. On commence avec vous, Philippe Rouillet, et l'ouverture de Blue Velvet.
She wore blue.
Alors, je vous ai dit l'importance de la collaboration avec Badalamenti, mais là, c'est une chanson qu'on entend, la chanson de Bobby Winton. C'est la première scène du film, c'est après le générique, où on enchaîne le rideau bleu de velours sur le bleu du ciel. Et on enchaîne les chromos sur l'Amérique des années 50, les barrières blanches avec les petites fleurs, les enfants au ralenti qui traversent l'école, le passage clouté devant l'école, le camion de pompiers qui a tellement rien à faire, où les pompiers saluent au ralenti un public imaginaire, la caméra, et puis tout d'un coup, alors que un vieux monsieur est en train d'arroser sa pelouse, il a comme une sorte d'attaque,
oui.
Et voilà, et ça va être le
il se tient à l'arrière de la tête.
Voilà, il se tient, on comprend pas exactement ce qui se passe, parce qu'au départ, on l'entend, parce que c'est pour ça que j'ai voulu cet extrait, c'est que c'est pas simplement une chanson de Bobby Winton, c'est qu'elle est tout d'un coup parasitée par le son de la scène, c'est-à-dire qu'on entend le robinet du jardin, du tuyau d'arrosage qui se met à fuir, le tuyau d'arrosage est coincé dans une herbe, il tire, il y a un montage alterné entre la fuite et le nœud du tuyau, et c'est à ce moment-là que... Et après, il se retrouve à basculer en arrière, on est au ralenti sur l'eau, on a un gamin qui arrive en couche, avec, là encore, une figure où on joue avec les codes de la banlieue, et un chien, et on se dit, formidable, le chien va l'aider, mais le chien ne l'aide pas du tout. Le chien, il s'amuse avec l'eau. Et à ce moment-là, ce qu'on entend là, c'est qu'on plonge dans la pelouse. On plonge dans la pelouse. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez entendu cette espèce de vacarme, de grouillement. En fait, il y a un fondu qui fait que la chanson de Bobby Winton, Blue Velvet, s'efface petit à petit. Et de plus en plus, c'est ce son. Et on rentre en macro-photographie dans l'intérieur de cette pelouse où les insectes se livrent à toutes sortes d'activités qui sont des activités d'insectes, entre le combat et la partouze. Mais c'est à la fois...
L'entomologie, j'ignorais l'entomologie.
C'est à la fois terrifiant Et ça renvoie évidemment à la dernière scène du film où on voit un rouge-gorge et on se dit que c'est merveilleux, que la paix est revenue. Et le rouge-gorge, il bécote un petit verre. Évidemment, c'est très dégoûtant, mais si vous donnez pas un verre au rouge-gorge, eh ben, le rouge-gorge, il va mourir. Donc, il y a cette idée qu'il faut accepter l'horreur pour avoir le beau. Et c'est tout. Moi, vraiment, Blue Velvet, c'est le film que je recommanderais à ceux qui connaissent pas le cinéma de David Lynch. Il y en a encore, je pense, parmi nous qui. Parmi les auditeurs qui savent peut-être pas, qui sont peut-être impressionnés, qui savent pas par où commencer, l'intérêt de Blue Velvet, c'est qu'il y a comme une sorte de discours de la méthode, c'est-à-dire qu'on part d'une Amérique très belle et on voit derrière la porte, derrière les volets, derrière le rideau, on voit le côté un petit peu pourri. Si vous voulez, c'est le contraire d'Elephant Man. Où Elephant Man, qui était son deuxième film, on voyait ce type avec une apparence monstrueuse de maladie, et on découvrait que c'était un cœur d'or et une intelligence formidable. Donc le beau était caché derrière le laid. Mais le cinéma de David Lynch, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt le laid qui est derrière le beau, mais on a besoin des deux. On a besoin des deux parce qu'il n'y a pas de beau sans le laid. C'est ça qui est passionnant.
La suite de l'histoire, justement, prouvera tout ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on est dans cet univers banlieusard, familial, mais qui est totalement rongé, déconstruit par la figure donc, de Dennis Hopper.
Voilà, parce qu'en fait, cette attaque de cet homme au début du film, qui paraît un peu hors sol par rapport à l'histoire, va amener notre homme à l'hôpital et son fils, qui était à la fac, qui est joué par Kyle MacLachlan, doit revenir pour s'occuper de la droguerie familiale. Et en route à pied pour aller voir son père à l'hôpital, il trouve sur le bas de la route une oreille humaine. Et évidemment, c'est assez singulier comme trouvaille. Et il va aller à la police en disant « Est-ce que vous n'êtes pas au courant de quelqu'un qui aurait perdu une oreille ?» Et voilà. Et la fille du policier, qui est quand même grande fille, qui est jouée par Laura Dern, un peu agent rapport, va lui proposer de mener leur enquête personnelle. Donc, il mène son enquête pendant que la police mène une enquête officielle. Et ce qui va l'amener à découvrir des choses extrêmement troubles. Ben déjà, il rentre dans la chambre des filles. Hein. Il y a ce côté-là qui plaît beaucoup à David Lynch. Et puis, on va découvrir la figure d'Isabella Rossellini. Et puis, qui est une chanteuse qui a un rapport très mystérieux avec ce mafieux qui est joué par Dennis Hopper, qui est un type constamment sous drogue. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est le retour de Dennis Hopper qui sortait de
plusieurs années de désintoxication.
Et donc, c'est marrant parce qu'il expliquait à David Lynch, alors toi, ça, il prend ça. J'ai pas besoin de les prendre parce que je sais exactement ce que ça fait et je peux exactement le jouer d'après mes souvenirs. Mais donc, il va y avoir tout cet univers qui se crée à partir de là et on est de moins en moins dans l'Amérique et de plus en plus dans ce monde noir dans lequel on pénètre avec un travelling à l'intérieur de l'oreille. Il y a toujours cette idée de comment le fantastique vient se greffer sur le quotidien.
Stéphane Menildo.
Oui, Velvet, oui, ça c'est un film important, je pense aussi pour notre génération, puisque c'est vraiment le film avec lequel on a découvert David Lynch. Moi j'avais vu Dune avant, mais Dune c'était un peu particulier, parce que c'était un film de SF. On se demandait si ce petit génie, en effet américain, n'était pas déjà en train de se vendre à Hollywood. Enfin, c'était pas Hollywood, c'était
Dino De Laurentiis.
Et Blue Velvet. C'était en fait un film qui pouvait parler directement à des jeunes ou à des adolescents, puisqu'on se retrouvait dans la peau du héros. Je veux dire, pour des quand on rentre chez soi pour les vacances en été, on a cette espèce de l'état de latence. On est à la fois un peu infantilisé par les parents, on retrouve sa vieille chambre, etc., où on rêve d'aventures fantastiques, d'enquêtes étranges, où le petit village du Var, où on a grandi, d'un coup peut devenir aussi, on peut très bien trouver une oreille en se baladant sur un chemin forestier. Donc ça, c'est vrai que c'est un film très très touchant, et parce que je crois que c'est aussi une évocation de l'adolescence et de la jeunesse de David Lynch et des expériences très bizarres qu'il évoque dans l'espace du rêve, mais aussi dans le documentaire Art of Life, où il disait qu'il traînait avec des gens un peu bizarres, qu'il faisait beaucoup de cauchemars lorsqu'il était adolescent, qu'il allait pas trop à l'école, et puis dans Art of Life, il termine ça en disant « Fantastic time ». Voilà, une époque fantastique, alors qu'il a raconté que des trucs horribles, hein, de toute façon. Donc voilà.
Fausto ?
Moi, je suis assez d'accord avec le fait que Blue Velvet est un peu le point d'entrée idéal, en fait, dans la filmo de David Lynch, qui, en vérité, est moins compliqué que ça. C'est-à-dire que, comme tu le disais très justement, Philippe, il y a une partie du public qui, parfois, est un peu effrayée, peut-être, par l'opacité revendiquée ou non, ou en tout cas qu'on a beaucoup discuté du travail de Lynch. Or, c'est un cinéma qui est toujours très simple. à la condition qu'on accepte de ne pas avoir toutes les clés, à la condition qu'on accepte de ne pas avoir toutes les réponses. À partir du moment où on a accepté en fait ce parti pris, les films, en vérité, sont pas très compliqués et nous touchent très profondément. Blue Velvet, comme tu le disais très justement, Stéphane, la force du film réside justement dans cette imagerie qui est à la fois lointaine pour nous, en tout cas européens, parce que ils capitalisent sur tous les clichés, tous les fétiches de cette Amérique 50s. Mais en réalité, en termes de sensations, on se rapproche, on se retrouve dans ce que ressent et dans ce que vit le personnage. Et en cela, cette espèce de phénomène de glissement, en fait, rend le film très proche d'expériences qu'on pourrait avoir nous-mêmes. Et Blue Velvet, c'est vrai que s'il fallait aujourd'hui commencer par un film dans la filmo de David Lynch, même si effectivement Eraserhead est un chef-d'œuvre et on peut toujours commencer par Eraserhead, Blue Velvet demeure à mon sens l'initiation parfaite et idéale.
Sixtine Audebert, vous, votre Blue Velvet à vous.
Moi, j'ai beaucoup aimé effectivement ces scènes de fétichisme très intense avec Denis Hopper et Isabella Rossellini, où il l'oblige, il la contraint à faire des choses qu'on ne dira peut-être pas à cette antenne.
Il y aura la morale réprouve, mais que mauvais gens engagent.
C'est ça, tout à fait. Et avec donc McLaren qui est caché. Dans le placard, et qui regarde. Et donc, on sait aussi que c'est un cinéma de l'œil, du voyeur et du fétichisme à proprement parler. Hein. C'est fou, effectivement, à quel point chez Lynch, on retrouve des éléments récurrents, des abat-jours, des devantures de voitures, des choses qui reviennent comme ça et qui sont prises pour leur esthétisme pur, hein, réellement. Et en même temps, qui ont, disons, comme sa manière d'utiliser la musique, une façon de pointer vers des significations qui, comme tu le disais très bien, Fausto, sont à la fois tout à fait lisibles, mais absolument non explicites. Mais ça construit un récit global qui est tout à fait intelligible, et on le verra sans doute plus loin.
Au cours de l'émission, on continue avec vous, d'ailleurs, Sixtine Audebert, vous avez choisi un extrait de Sailor et Lula.
Vous avez la même énergie qu'Elvis. Vous connaissez celle-là ? Treat me like a fool. Treat me mean and cruel. But love me. Break my faithful heart.
Alors, tout le monde a tiqué dans le studio en entendant la VF, effectivement, de Nicolas Cage qui lance, après avoir écouté un morceau de Power Mad, donc un groupe de trash, je ne pouvais pas manquer de passer pour une fois un morceau un peu pimenté dans l'émission Mauvais Genre, donc un morceau qui s'appelle Slaughterhouse et qui revient plusieurs fois dans le film et qui donc là est interrompu par un jeune homme du public qui entreprend de draguer la copine de Sailor, Lula. Et qui se fait évidemment attraper par l'homme à la peau de serpent qui est Sailor dans le film et qui entreprend une déclaration langoureuse en reprenant un standard d'Elvis, Love Me. Et il faut savoir pour la petite anecdote que c'est vraiment Nicolas Cage qui chante cette chanson. Alors c'est un film, Sailor et Lula.
Tiré d'un roman de Barry Gifford.
C'est ça, tiré d'un roman de Barry Gifford qui est une sorte de road movie mêlant sexe, violence et rock'n'roll, et qui incarne à la fois à travers les personnages de Sailor et de Lula une sorte d'Amérique fantasmatique, hein, puisqu'on a le Sailor gominé qui représente effectivement l'archétype du mal un peu coquille, comme on dit, Elvis, et de l'autre côté la blonde Lula qui est toujours langoureuse, pin-up sur les capots de bagnole, cheveux au vent, etc. Et en même temps aussi qui incarne bien cet esprit 90s, hein. On a vraiment ce souffle qui va parcourir d'autres films, d'autres road movies de cette génération, je pense à Natural Born Killers ou à justement Doom Generation ou d'autres. En tout cas, c'est un film qui est vraiment qui est aussi Un film matriciel, alors encore très très lisible, vraiment très lisible par rapport à ce que fera Lynch par la suite, mais où on voit qu'il y a quand même une superposition d'un récit lisible et d'une volonté de mettre déjà en réseau quelque chose qui forcerait à une interprétation plus profonde, avec la référence tout à fait récurrente dans le film au Magicien d'Oz, avec donc les éléments que on pourrait nommer comme les chaussures rouges que porte Lula et dont elle claque à plusieurs moments, la Yellow Brick Road, la route de briques jaunes qui est mentionnée plusieurs fois, la figure de la sorcière qui s'incarne dans la terrifiante mère de Lula qui essaie de la séparer de son petit ami. Donc tout ça invite justement déjà à cette double lecture qui est donc de pousser derrière le rideau de la jolie petite banlieue calme où les protagonistes habitent au début, vers des significations plus inquiétantes, hein, puisque déjà aussi dans le film, comme le personnage de Twin Peaks plus tard, le personnage joué par Laura Dern a eu dans son enfance sans doute des sévices corporels, un viol qui a été perpétré. Alors c'est un film qui est d'autant plus important que c'est le film qui a reçu la Palme d'Or à Cannes en 1990, et que si on regarde encore aujourd'hui les vidéos sur YouTube de cette palme, on entend très très fort dans la salle les sifflets et les gens qui vraiment protestent. Alors peut-être que Philippe Rouillet pourra mieux expliquer.
Philippe Rouillet qui était là avec une batte de baseball.
Il a hué.
C'était une fête, hein, parce qu'évidemment découvrir Sailor et Lula sur le grand écran lumière à Cannes, c'était assez formidable. Cette palme, elle a une grande valeur, hein, dans l'histoire du cinéma, parce que c'était vraiment pas habituel qu'un film comme ça, un peu rock, un peu...
C'était Bertolucci, le président, cette année.
Oui,
hein.
Oui. Et la Palme d'Or. On sentait que ça allait venir. Michel Simon m'avait dit la veille, tu verras, c'est Sailor et Lula qui va avoir la palme. Je ne sais pas d'où il tenait ces informations ou son flair légendaire. Mais en tout cas, il avait raison. Et ça a heurté, comme la projection a heurté. C'est-à-dire que moi, j'ai vu le film le matin à la presse, j'ai été le revoir l'après-midi. Et les rombières de Cannes qui se barraient, notamment la scène du vomi sur la moquette.
Rombières de Cannes.
En disant, si c'est ça le cinéma américain, on préfère s'en aller. Voilà, mais c'est ça qui était assez formidable, et ça a ouvert la porte à tout un cinéma à Cannes. Je veux dire, 4 ans après, c'est Tarantino qui a la Palme d'Or avec Pulp Fiction. Mm-hmm.
Et qui
devient, ça devient
hué aussi, hein, hué aussi,
hué aussi, ouais. Mais à chaque fois ce sera hué. De toute façon, les palmes, elles sont souvent huées dès l'instant qu'elles sont autre chose que consensuelles. Je veux dire, on aurait dû huer la Palme d'Anora. C'est parce que c'était trop.
Ça, c'est le dernier film, donc.
Oui, qui a eu la palme l'an dernier. C'était trop mainstream par rapport à d'autres pépites qu'il y avait dans le festival. Mais en tout cas, c'était un super événement, parce que ce film, c'est vraiment un morceau du cinéma américain, effectivement, qui s'inscrit. C'est ce que tu dis, c'est dans le truc du code du road movie, dans les codes du road movie, et à la fois c'est à la fois une rom-com et un road movie. Et un film musical, parce qu'il y a énormément de numéros musicaux. Lui, il chante, et puis il y a ce qu'on entend en boîte, et puis il y a toute cette musique rajoutée en plus. Il y a des morceaux de Badalamenti qui sont assez magnifiques, et donc il y a un vrai lyrisme. Il y a un vrai lyrisme qui nous emporte. Il y a un mélange de lyrisme et d'onirisme, avec comme dans tout film de road movie, il y a des rencontres, et des rencontres qui sont toujours exceptionnelles. Je veux dire, par exemple, on n'a pas oublié Willem Dafoe et ses, ouais, et ses dents pourries.
Ah bah, ceux qui vont sur les réseaux sociaux, selon Laurent Polleret, pourront découvrir l'indentition de Willem Dafoe.
Qui est d'une inquiétude terrible. Enfin, je veux dire, qui est encore plus inquiétant, qui est dans la lignée du personnage de Dennis Hopper dans Blue Velvet, mais ouais, qui l'est encore plus, hein, avec cette idée qu'il veut faire entendre le chant intime de Bobby Peru à la malheureuse Laura Dern. Je veux dire, voilà, c'est bon. Il y a des braquages avec des mains coupées qui se baladent dans les gueules.
Superbe explosion de tête aussi.
Il y a des explosions de tête.
Non, mais il y a surtout.
Il y a la femme sur le bord de la route, il y a Sherilyn Fenn sur le bord de la route avec tous ses vêtements éparpillés.
Stéphane Duménildo.
Oui, je me souviens, j'étais à Cannes.
J'étais à Cannes aussi,
vous avez lu. Non, mais je me souviens très bien de l'allumette qui flambe au tout début sur le grand écran de lumière, de l'auditorium lumière. C'était vraiment incroyable. Et puis, suivi par la scène où Nicolas Cage éclate la tête.
Alors justement, ce que j'allais dire, on parle des premières scènes des films de Lynch. Alors, on avait Blue Velvet avec le rêve américain, les gens heureux n'ont pas d'histoire, les pompiers sont au chômage, et puis brusquement, l'attaque, là c'est pareil, il y a une première scène avec la matière cérébrale, cervicale, du malheureux garde du corps de la mère de Laura Dern, là, qui se retrouve sur l'escalier, là c'est...
Oui, puis c'est une façon d'introduire le personnage de Sailor de façon très dangereuse. Alors après, on se rend compte que c'est le plus gentil des hommes. Hein.
Il faut pas le faire.
Mais il faut surtout pas s'approcher de Lula avec un cran d'arrêt. Hein. Mais aussi, si je me souviens bien, c'était pendant la... Est-ce que c'était avant ou après la diffusion de Twin Peaks? Peut-être un peu avant.
C'était avant.
Oui,
un peu avant. Mais il l'a tourné pendant Twin Peaks, en fait. C'est pour ça qu'on retrouve Sherilyn Fenn, qu'on va retrouver aussi Grace Zabriskie, donc qui joue Sarah Palmer dans Twin Peaks, mais là on la retrouve dans le rôle de la mère de Perdita Durango, un personnage absolument absolument terrifiant.
Autre roman génial de Barry Gifford,
joué par Isabelle Rossellini, qu'on retrouve.
Tout à fait, et qui vont se livrer à une sorte d'assassinat vaudou orgiaque sur la personne de Hardin Stanton. Il y a aussi c'est une façon aussi pour David Lynch de faire venir des acteurs. En effet, bon, Hardin Stanton, c'est la première fois qu'il apparaît chez Lynch, ce qui va être une figure très importante. Grace Zabriskie, on va la retrouver tout le temps. Willem Dafoe, c'est dommage, juste une seule fois, mais c'est vraiment tellement mémorable. Bobby Peru. Mais j'avais une question peut-être à Sixtine. Moi, je me souviens qu'après avoir vu le film, j'ai cherché dans tous les disques d'Aix-en-Provence des disques de Power Mad. Bon, ça nous avait rendu complètement fous. Et puis, on s'était dit, bon, ça va être un groupe tellement américain, obscur, qu'on n'arrive pas à les avoir en France. Après, je me suis dit, peut-être que ce groupe n'existait pas.
Alors, c'est un véritable groupe. Réponse. Qui fait, effectivement, c'est un véritable groupe de speed, trash, de Minneapolis, et qui est resté, disons, relativement inconnu par rapport au fait qu'il ait été propulsé dans une bande-son de Lynch. Effectivement.
Ce qui est intéressant dans l'extrait, c'est qu'on ne pouvait pas faire plus opposé à Power Mad que Elvis Presley.
C'est ça, et qu'il joue, effectivement, c'est le backing band, comme on dit, de ce morceau d'Elvis. Donc on voit les chevelus en train de jouer du Elvis, dans le fond, avec leur tignasse. Donc changement d'ambiance brutal.
Alors ne quittez pas la scène, Stéphane Duménildo, puisque l'heure est venue d'entendre l'extrait que vous avez choisi, un extrait de Fire Walks With Me.
Gordon? Philip? Is that you?
Philip?
Cooper? Meet the long-lost Philip Jeffries. You may have heard of him at the Academy.
Well, now, I'm not going to talk about Judy. In fact, we're not going to talk about Judy at all.
Gordon?
I know, Coop, stand fast.
Who do you think that is there?
Suffered some bumps in the old noggin, eh, Phil?
What the hell did he say, Albert? That's Special Agent Dale Cooper. Where in the hell have you been, Jeffrey?
I sure as hell want to tell you everything, but I ain't got a whole lot to go on. But I will tell you one little bitty thing. Judy is positive about this.
How interesting. I thought we were going to leave Judy out of it.
Albert,
sit down, Jeffries.
Voilà, Stéphane Duménildo.
Oui, donc c'est Twin Peaks, Fire Walks With Me, donc la préquelle de la série télé Twin Peaks, qui avait donc créé en fait une sensation pour tous les fans de David Bowie. Moi, personnellement, je veux dire, tout doit se rattacher à un moment ou à un autre à David Bowie. Hein. Mais là, c'était David Bowie chez David Lynch. Alors, en voyant le film, j'avais eu quand même un moment, j'irais pas de déception, mais en tout cas, une sorte de d'un côté très inconfortable, puisque ce David Bowie qu'on attendait chez David Lynch, finalement, on le voit arriver comme un fantôme de particules. Donc cette scène, elle se passe le 16 février 1989 à 10h10 du matin, c'est précisé, juste après que l'agent Chess Desmond ait disparu en ramassant la bague de Teresa Banks sous une caravane à Deer Meadows. Voilà. Donc, l'agent Chet Desmond, c'est-à-dire Chris Isaak, donc lui aussi un chanteur, disparaît et apparaît un autre chanteur, David Bowie, dans le rôle de Philip Jeffries, qui va apparaître dans les locaux du FBI à Philadelphie. Donc, il va raconter que, d'ailleurs, ça fait 2 ans qu'il a disparu, il était à Buenos Aires, à l'hôtel Palm Deluxe. Donc, il a disparu sur un escalier et il est réapparu 2 ans plus tard dans les bureaux de Philadelphie. Et il commence à faire un compte-rendu. Il dit qu'il ne faut pas parler de Judy. On n'en parlera pas, c'est Judy. On saura un peu qui c'est, mais 25 ans plus tard, dans la saison 3. Et Jeffries va être noyé dans un nuage de particules où vont se mêler des images d'un groupe de personnages étranges et inquiétants qui habitent dans un appartement au-dessus d'une épicerie, dont on va reconnaître l'homme d'un autre endroit, c'est-à-dire le nain habillé en rouge, Bob, donc le démon chevelu, plus d'autres personnages, des bûcherons d'ailleurs, qui vont se mettre à prononcer des paroles énigmatiques comme « Garmon Bosia », et table en formica, puisque le nain caresse avec une table en formica. Et à la suite de ça, Philip Jeffries disparaît à nouveau. Donc, la figure de David Bowie qui apparaît à ce moment-là chez David Lynch, en fait, on voit comment David Lynch va la gommer, hein, ne pas la faire apparaître vraiment corporellement, mais en faire une sorte de fantôme d'onde, un fantôme d'électricité statique. Et ça, finalement, en fait, c'est peut-être le plus bel hommage que peut rendre Lynch à David Bowie, en fait. Hein. Tous les deux, ils se réunissent dans une sorte de culte quasi mystique de l'électricité, en fait. Donc, d'où le fameux éclair rouge hein, de Bowie sur Aladdin Sane.
Aladdin Sane, oui.
Et justement, il en fait une créature électrique. Et c'est une période pour Bowie, d'ailleurs, où Bowie n'est pas au mieux de sa forme. Hein. Il vient de terminer toute sa période avec Teen Machine, donc ce groupe qu'il a formé, bon, où il s'essaye un peu à l'indu, au métal, etc. Mais bon, il y a un truc qui ne prend pas tout à fait. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, David Bowie, il redéfinit surtout la figure de David Bowie. C'est-à-dire que David Bowie, on le voit qui apparaît, au début, il a, en gros, il pourrait venir des années 80, il pourrait venir de la période de Let's Dance, de ce que j'appelle, moi, un peu personnellement, la trilogie du voyageur. Hein, ce qui part de Lodger, Scary Monsters et Let's Dance, où David Bowie devient quelqu'un qui va voyager à travers le monde, mais qui va voyager aussi à travers les ondes, puisqu'il va s'emparer du vidéoclip, il va s'emparer de MTV. Donc c'est là, il devient une figure mondialement connue. Et puis, une figure de moins en moins intéressante musicalement. Et donc, David Lynch va le reprendre et va le refondre. Et d'une certaine façon, j'ai l'impression que le David Bowie qui va réapparaître avec Outside jusqu'à Black Star, jusqu'à l'album de sa mort, est en fait une créature qui revient de l'univers de Twin Peaks, qui revient de ce magma. Là, on aurait pu écouter un peu plus longtemps parce qu'il y a vraiment des superpositions de sons. La voix de David Bowie est traitée, mais alors on dirait que ça sort d'un album de David Bowie, ça sort d'une chanson. Hein. Je crois qu'il y a peut-être des choses de la musique de Bowie qui viennent à ce moment-là, en fait, qui sont... Et d'ailleurs, c'est très dommage qu'il n'y ait pas eu un vrai album de Bowie. Il a travaillé avec beaucoup de musiciens, donc Christabel, avec le créateur de Nine Inch Nails, dont le nom m'échappe.
Trent Reznor,
voilà. Mmh. Et donc, à mon avis, bon, la rencontre avec Bowie ne s'est pas créée musicalement, mais elle s'est quand même créée avec cette scène de Firework With Me.
On en dit quelques mots sur le film pour... Nos auditeurs.
Oui, bah le film, ça raconte les derniers jours de Laura Palmer, donc le martyr de cette adolescente encore une fois, dans une petite ville américaine, à la Peyton Place, hein, voilà, d'une petite ville de soap opera, avec des histoires de garçons et une fille, etc. Et on va voir quel a été son supplice, son martyr, en fait. Hein. La différence qu'il y aurait entre Twin Peaks, la série, et Twin Peaks, le film, dans Twin Peaks, on a clairement un démon qui s'empare d'un homme, c'est-à-dire le père de Laura Palmer, Leland, qui va le pousser à la violer et la tuer, tandis que dans Twin Peaks, le film, on a plutôt l'impression qu'on a une jeune fille qui, ne voulant pas voir que son père est un père incestueux, un abuseur, construit autour de ça un univers fantasmatique de plus en plus noir qui va l'entraîner vers la mort.
Oui, rapidement, et Philippe. En fait, à Cannes, là, le film avait été très très mal reçu parce qu'en fait, les gens espéraient un épisode grossi en quelque sorte de la série. Enfin, ceux qui connaissaient la série et le ton est pas du tout le même. Le premier plan du film, c'est une télé qu'on casse à la hache et je pense que c'était un message qu'envoyait Lynch pour dire ça va être autre chose. Et c'est exactement ce que tu dis. Le ton n'est plus le même. Il y a plus ce petit monde de Twin Peaks avec toutes les micro-intrigues et les personnages secondaires haut en couleur. Le film est funèbre, c'est une marche funèbre. Et c'est 7 jours. Alors, en plus, par rapport au film, alors c'est moins vrai maintenant parce que la série a été beaucoup vue, mais à l'époque du film à Cannes et même dans sa sortie dans la foulée, il y avait des gens qui n'avaient pas encore vu la série. Et donc, pour qui Bob et tous ces personnages-là, le nain rouge et tout ça, la chambre, la dark...
C'était mon cas à l'époque.
Tout ça, la Black Lodge.
J'ai commencé par le film, moi.
Tout ça a été très mystérieux. Ouais. Mais c'est fascinant parce que là, j'ai envie que tu nous racontes comment tu as perçu le film parce que c'est comme Smoking, No Smoking. Selon l'ordre où on voit les choses, on n'a pas la même perception. On ne saura jamais. Alors, raconte-nous ce que c'est de voir.
Il faut que je plonge dans mes souvenirs quand je vais
plonger, mon ami. Plonger.
Non, je me souviens avoir absolument rien compris à ce que je voyais et je me sentais très extérieur en fait aux enjeux. J'avais l'impression qu'une histoire avait été racontée un peu sans moi en réalité. Mais en même temps, ça participait aussi d'une certaine fascination. C'est-à-dire que je trouvais ça tout à fait passionnant sans forcément saisir en fait tous les enjeux dramatiques du récit. Mais si je me trompe pas, Stéphane, ce que tu disais, c'est que et ça, je trouve ça fascinant. J'avais jamais pensé à ça. C'est que la carrière de Bowie n'aurait pas été la même s'il n'avait pas été au cœur ou s'il n'avait pas goûté à l'univers de Twin Peaks, c'est ça hein.
Oui.
J'avais jamais pensé à ça et c'est vrai que vu qu'on très souvent quand on parle de Bowie c'est uniquement à l'aune de sa carrière musicale, c'est vrai que voir quelqu'un qui est, même si David Lynch est un artiste complet, mais voir que David Lynch a pu infléchir sur l'image, l'imaginaire et la carrière en fait d'un monstre comme Bowie, c'est parfaitement fascinant quoi.
Quand Bowie va faire Outside, il va raconter encore une fois l'histoire d'un détective qui va enquêter sur la mort d'une jeune femme. Et puis après il va revenir dans Lost Highway où il va donner vraiment la couleur de Lost Highway.
Il y a une proximité physique entre Lynch et Bowie en plus, c'est assez intéressant quand même.
Que la mort de David Lynch, elle est comparable en termes de choc culturel à ce qu'a été la mort de Bowie.
C'est vrai.
On retrouve Sixty Note Bear pour un second extrait.
De nouveau impossible de choisir quel morceau pour illustrer Lost Highway qui est sans doute mon Lynch préféré pour de multiples raisons mais peut-être quand même pour sa BO. Alors effectivement en ouverture un sublime morceau sur ce défilé de route, un Bowie tardif qui est vraiment superbe. Rammstein a deux fois sa place dans l'extrait. Pour la petite histoire, la légende, on dit que Rammstein avait envoyé son disque à Lynch et que Lynch ne l'avait pas écouté jusque sur le tournage de Lost Highway et qu'il l'a adoré et il l'a ensuite diffusé à plein tube pendant les scènes, les prises. C'est vraiment le Rammstein du début. Hein. En plus, c'est vraiment le groupe est déjà un peu connu, mais c'est son premier album là. Et on entend cette espèce de mélopée pachydermique, vraiment très 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 lourde, à un moment de dissociation du personnage. Et dans le film, il y a énormément de comment dire de musiciens des années 90 très importants. Donc on évoquait Trent Reznor, Nine Inch Nails qui diffuse aussi son Perfect Drug. Et puis il y a des apparitions d'Henry Rollins, il y a un morceau de Smashing Pumpkins. Donc c'est vraiment tout un univers musical qui est présent. Ça vous va bien, François Rammstein, en fait, ça se lui va très bien.
Fausto, justement.
Sur la participation de Rammstein
bah
sur
oui,
Lost Highway, ou sur Lost Highway de manière générale, parce que
bah,
moi
on
aussi,
va vous entendre avec votre. Vous voilà. avez choisi un extrait de Lost Highway, mais sur, la, sur ce qu'on entend là.
Ah bah moi je suis devenu fou quand j'ai vu Rammstein sur en musique justement de Lost Highway. Enfin c'est en plus c'est une scène effectivement une scène de dissociation. C'est aussi une scène de déambulation. Et c'est vrai que la musique est une sorte de marche. Et en fait on suit aussi la progression du personnage. Dans une espèce comme ça d'enfer californien, une gigantesque maison, il pousse des portes. Il y a vraiment quelque chose, oui, qui à la fois relève du cauchemar et du fantasme dans cette scène et aussi par ailleurs dans la musique de Rammstein. Ouais.
Sixtine.
Oui, que rajouter si ce n'est que il a réellement bien choisi ce moment d'acmé pour appliquer ce morceau qui est vraiment vraiment très très lourd. Quoi.
Qui intervient deux fois, je crois.
Qui intervient deux fois, effectivement. Alors cuté de manière extrêmement bizarre, on a vraiment ça s'arrête en plein milieu, quoi. Donc il utilise vraiment comme il le fait très bien, il utilise ce morceau comme une matière sonore pour imprimer un moment et il l'utilise vraiment en toute liberté.
Parce qu'il est aussi sound designer en fait, hein, Lynch. Il est crédité, enfin de toute façon on le sait, c'est quelqu'un qui manipule le son, c'est un musicien, etc. Mais on sent toujours effectivement dans ses films cette volonté d'aller triturer, d'aller manipuler, d'aller couper à des endroits qui ne sont pas forcément les plus évidents. Et en tout cas avec l'utilisation de la musique de Rammstein, il y a aussi, à mon sens, une sorte de frustration comme ça qui est créée, parce qu'on a envie encore de l'entendre et en fait ça s'interrompt de manière assez brutale.
Alors au début, c'est pas lui Philippe qui faisait le design sonore de ses films, c'était Alan Splett hein, sur Eraserhead. Encore sur Blue Velvet, je voyais le générique tout à l'heure, c'était vraiment encore... Mais c'est cette idée, parce que dans un cinéma de la fin des années 70 ou début des années 80, on les compte ceux qui prennent des designers sonores. Enfin, il y a Coppola qui va chercher Walter Murch, par exemple pour Apocalypse Now, mais c'est Kubrick. Pas la majorité. Kubrick n'a pas de designer sonore, à ma connaissance.
C'est lui qui est
C'est lui qui veille au grain. Mais il y a un empilement de sons chez Lynch qui nécessite ça. Il faut créer une ambiance et les morceaux, entre les morceaux originaux et les morceaux qu'il récupère, comment il va les distordre et les mêler au son du film. C'est pour ça que quand on a choisi les extraits pour cette émission, on voulait absolument les extraits des films et non les chansons originales, parce qu'on veut voir comment les sons qu'engrènent, parasitent ces chansons.
Stéphane.
C'est intéressant de voir qu'on est passé de Bobby Vinton, Blue Velvet, à Rammstein. Mais... En fait, Lynch, il est quand même très attentif à l'époque. Hein. C'est pas du tout quelqu'un qui est comme ça dans les nuées. Hein. La BO de Lost Highway, c'est vraiment un instantané de la musique et de la culture de cette époque des années 90. Hein. De la même façon que Blue Velvet était aussi une réponse, je pense, à cette imagerie... 50s qui était véhiculé, enfin Reaganienne aussi qui était véhiculé par des films comme Retour vers le futur, etc.
Un peu néo-rétro, quoi.
Voilà, le retour au diner, au rockabilly, etc., aux jours heureux. Donc il en montrait l'autre face, et là, on est dans le cauchemar des années 90 avec Lost Highway, un monde beaucoup plus froid, beaucoup plus glacial.
avec en même temps cette aspiration au rétro, parce qu'il y a un côté très Hitchcockien avec Patricia Arquette qui joue deux femmes. Parce que le film est le film de tous les paradoxes.
On raconte rapidement.
C'est-à-dire que on a un saxophoniste furieux d'être trompé et qui se retrouve dans le couloir de la mort parce qu'il a tué sa femme, et un matin, c'est plus lui. Un matin, dans la cellule, qui est pourtant très bien gardée, c'est un petit jeune. Et donc commence une nouvelle histoire où ce petit jeune qui est mécanicien va tomber amoureux d'une fille qui est jouée par la même que l'épouse, et qui est la pépée d'un gangster. Alors c'est pas du tout une bonne idée de prendre comme petite amie la maîtresse d'un gros gangster, parce que ça vous attire des ennuis, quoi. Et donc il y a un régal de Patricia Arquette de jouer la blonde et la brune, et d'avoir ce personnage masculin qui devient autre. Et donc pour moi c'est le film jumeau de Mulholland Drive, hein. Évidemment c'est les deux films à voir en parallèle, même si Lynch disait qu'il fallait pas faire ça, on a le droit de le faire.
On a le droit de le faire. Et on a surtout le droit d'écouter le son choisi par Fausto Fazzullo, donc un extrait de Lost Highway.
They made me wait there forever. There was a guy guarding the door. In another room, there was this other guy lifting weights. I started getting nervous. When it got dark, it brought me into this other room.
Mon cher Fausto, I put a spell on you, Screaming Joe Hawkins.
Oui, revu et très corrigé par Marilyn Manson. Alors, on a déjà un petit peu parlé de Lost Highway. J'aimerais juste ajouter deux trois petites précisions. C'est quand même pour moi le film de l'après Twin Peaks. Il emporte un peu tous les stigmates. C'est un film que réalise David Lynch après 5 années de hiatus, en tout cas une pause en ce qui concerne son activité de réalisateur de long métrage. Et c'est un film de fin de siècle. Et je trouve que ça en dit long, parce que c'est un film de transition qui a la particularité et même la qualité d'être sur, un triple regard temporel. Comme tu le disais, Stéphane, c'est vrai que David Lynch a toujours été un cinéaste de son époque. Il s'est toujours soucié de ce que regardaient, de ce qu'écoutaient les spectateurs. Là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il travaille une imagerie qui reprend tous les tropes du néo-noir, hein. Tu le disais, Philippe, avec la femme fatale, le mafieux, voilà, on a tout ça. On a à la fois une ultra-contemporanéité dans les choix musicaux, où il a repris en fait les grandes icônes un peu déglinguées du rock de la fin des années 90, donc Rammstein, Marilyn Manson, qu'on entend là justement. Et en même temps, c'est un film qui est aussi dans la prospective, puisqu'il nous parle de la viralité des images, de la manière dont on les manipule, de la manière dont on s'en sert parfois aux dépens d'autres personnes. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que le personnage principal du film, enfin un temps, Fred Madison, incarné par Bill Pullman, dit on sait qu'il déteste les caméscopes, qu'il déteste les images filmées, etc. Et ça, c'est quelque chose qui en dit long aussi sur, je pense, ce que ressentait David Lynch à l'époque et ce qu'il voyait en fait de ce qui allait nous attendre. Donc la séquence que j'ai choisie, en fait, c'est une séquence de flashback qui intervient à 1h28 minutes et 15 secondes dans le film, si vous voulez la retrouver. Alors c'est une séquence où le personnage en fait de Alice Wakefield, donc qui est incarné par Patricia Arquette, le choix du prénom Alice aussi n'est pas anodin, hein, raconte à son boyfriend amant Pete Dayton, qui est incarné par Balthazar Getty, qu'on retrouvera d'ailleurs des années plus tard dans la saison saison 3 de Twin Peaks. Sa première rencontre avec Monsieur Eddy, le fameux mafieux que tu évoquais, incarné par Robert Loggia. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un mafieux qui est très à cheval sur le code de la route. Il y a une séquence assez, assez croquignolesque où on le voit fracasser un pauvre automobiliste. Enfin, il l'a bien cherché, qui lui a fait une queue de poisson. Et bref, durant ce flashback, en fait, il y a quelque chose de très intéressant qui se crée entre le personnage d'Alice, Patricia Arquette, et Monsieur Eddy, Robert Loggia. C'est une inversion, en fait, des pouvoirs de domination. C'est-à-dire qu'elle est présentée donc de force à Robert Loggia. Elle est contrainte de lui faire un striptease quasiment intégral. On a entendu le cliquetis d'une arme qui se chargeait. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir en fait comment son visage change au fur et à mesure de l'effeuillage. C'est-à-dire qu'il y a un changement effectivement de tenue, puisqu'elle se déshabille progressivement. Et on voit en fait qu'elle passe de la fille apeurée à la fille qui commence à jouer avec le personnage. Robert Loggia, lui, on a des plans effectivement sur lui, champ contre champ. On le voit, il ne change pas trop. Et en fait, ce qui est super fort de la part de Lynch, c'est la manière dont il inverse à ce moment-là les jeux de pouvoir et les rôles d'une certaine manière, et comment il se joue, et il joue avec cette musique, cette reprise donc de Screaming Jay Hawkins, I Put a Spell on You, je te jette un sort, puisque en fait en réalité la personne qui jette un sort à Robert Loggia à la finale, c'est bien justement Patricia Arquette. Et à la toute fin, il y a un raccord qui est très beau, c'est qu'on voit la main de Patricia Arquette qui s'approche en fait du visage de Robert Loggia, et hop, raccord, et on bascule sur l'autre personnage, donc incarné par Balthazar Getty.
Philippe, quelques secondes pour conclure.
Que c'est un film dans lequel on a tout le temps envie de revenir, parce que comme on pousse le curseur et qu'on passe sans cesse d'un personnage à l'autre, c'est un film qui est en fait en 8. C'est un ruban de Möbius. La fin ne boucle pas le début, le fameux Dick Laurent est mort, mais c'est vraiment une espèce de contre-champ. Et donc, dès qu'on a fini de voir le film, eh ben, on le revoit de nouveau.
Merci à tous quatre pour cet hommage à David Lynch, basé donc sur des choix subjectifs, hautement subjectifs, d'extraits de ses films et de ses bandes-sons. Pense maintenant aux chroniques dans Mauvais Genre sur France Culture.
This dance, can I get more pants? Ooh, may I squeeze on them shoes? Sing maybe some blues. I wanna wear your ring.
Sixty Notebert. Chronique, c'est à vous.
Et je vais vous parler de Fais pas ton cinéma et autres histoires sans importance d'Alain Fédry, publié chez l'excellente maison Monotone. Un recueil de textes aux frontières poreuses, mêlant avec goût et personnalité des chroniques ciné fort généreuses et, ma foi, aussi subjectives, et de truculentes nouvelles sur fond d'Americana. Alors, présentons un peu l'auteur. Depuis les années 1980, Alain Fédry a croisé haut le fer pour le rock, s'illustrant dans la lutte homérique de quelques mythiques fanzines comme 19, Dig It, Abus dangereux et j'en passe, qui unissaient à l'époque leurs forces aux vaillants canards nationaux. Et Alain Fédry a également contribué à nombre d'entre eux, dont Rock Sound et Rolling Stone, pour n'en citer que deux. Et plus récemment, il a également publié dans les années 2000, il est allé grossir les rangs des petits éditeurs marqués du sceau du genre le plus douteux qu'on affectionne particulièrement ici. J'en cite quelques-uns, Le Castor Astral, Le Boulon et bien sûr Camion Noir, avec des biographies musicales, donc des Cramps qu'on entend en ce moment, des Kings, de Buddy Holly, des Flaming Groovies et des Troggs. Et c'est la première fois alors qu'il s'aventure avec Fais pas ton cinéma seul en terre cinématographique. Alors je dis seul, mais pas tout à fait seul, sous le saint patronage du journaliste Philippe Garnier, l'archétype rock'n'folkien de l'amateur protéiforme, qui est de l'aveu de Fédry, celui qui lui a ouvert la voie de ses navigations transversales, trempant sa plume aux encres sympathiques du cinéma, du rock et de la littérature. Et alors, tant l'ardente partie cinéphilique que les nouvelles de cet ouvrage témoignent de cette même érudition fourmillante qui est propre à la critique rock de tradition française. Une érudition sans ornière et non formatée, caractéristique du dilettante, esthète et buissonnier, pour qui l'on sent que la culture est un vaste terrain de jeu où s'ébattre et gambader et librement faire son miel. Un disque appelant ici un film qui renverra à lui-même à un livre, etc., etc. Alors néanmoins, on peut relever que ce qui dans l'ouvrage attire et retient particulièrement notre homme, alors ce sont toujours des gueules, comme on dit, des loubards, des pirates au destin boiteux, des personnages bigger than life. On a la trogne fantastique du français Noël Roquevert et la plantureuse Karen Black, une ribambelle de junkie, une amoureuse de Charles Manson, le schpunz Fernandel, revu et corrigé à la sauce punk des Tugs, et le boxing jazzman de la Nouvelle-Orléans, Jack Dupree, le tout évidemment cousu d'un fil rock'n'roll, vous vous en doutez, hérissé de petites pointes piquant le conformisme. Et la vocation première de cet ouvrage, eh bien, c'est avant tout de propager par une scansion célinienne, hein, c'est pour vous ça, cher François,
oui.
Ponctuation gouailleuse et des calembours très goulayants, un enthousiasme franc auquel répond parfaitement, et là c'est une valeur ajoutée, les flamboyantes illustrations de Jacques-Olivier Leroy.
Merci Sixtine.
Simplement, cet ouvrage sera trouvable en ligne, uniquement en ligne. Sur les éditions Monotone.
Bah vous aurez la ligne sur le site de l'émission. Merci Sixtine. On passe à Monsieur Rouillet qui est venu.
Alors,
avec,
dans toutes les bonnes crèmeries qui vendent des DVD Blu-ray, on va pouvoir acheter Danse Macabre, l'édition Collector 4K de Artus. Artus Film, dont on parle souvent ici, hein, et qui se décide à se lancer dans le 4K. Et ça, il faut saluer ça. C'est quand même très, très cher.
Allez-y,
la fabrication, mais le résultat est très fort. Je rassure, si vous achetez le coffret, vous avez le Blu-ray aussi. Si vous n'êtes pas encore équipé en 4K, vous pouvez déjà avoir le Blu-ray. Il y a un Blu-ray de supplément. Danse Macabre, c'est 1964. Anthony Dossot, donc Antonio Margheriti, qui est un chef-d'œuvre du fantastique gothique italien. Hein. On pourrait dire ce genre qui commence en 56 avec les vampires de Freda et qui va aller en gros jusqu'en 66 avec Opération Peur de Bava. On pourrait dire c'est 10 ans. Et là, on a, avec Le Masque du Démon, qui est donc emblématique de ce courant-là, le deuxième plus grand rôle, je pense, de Barbara Steele,
hein,
qui donc... Alors, le film est très singulier, parce que on nous raconte au générique que c'est adapté d'Edgar Poe, alors évidemment, pas du tout.
Tout est adapté d'Edgar Poe.
Pas du tout.
Même quand c'est pas marqué.
Très vendeur. Par contre, il y a Edgar Poe...
Même Noël Roquevert est adapté d'Edgar Poe.
Edgar Poe est dans le film, alors évidemment, c'est pas le vrai
Starring Edgar Poe. Quand même.
Voilà. et qui explique que tous ces contes que tout le monde trouve si formidables, fantastiques, sont en fait, lui, il est journaliste, et qui parle du réel, et qui parle de ce qu'il voit autour de lui. Et que si on ne le croit pas, tant pis. Et ça va être le lancement où un jeune journaliste qui est très fan d'Edgar Poe va accepter le pari de passer une nuit dans un manoir hanté. Et ce qui est très intéressant, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce film aujourd'hui, c'est qu'il y a une logique du rêve, une logique onirique qui, tout en étant dans le gothique italien, peut avoir des ramifications avec l'univers de Lynch. C'est-à-dire que le gars est dans sa maison hantée, donc on s'attend à ce que les fantômes viennent. Or non. C'est-à-dire que il y a une abolition entre le monde du rêve et la réalité. C'est-à-dire qu'il se retourne et Barbara Steele est là, lui touche l'épaule et lui dit « Oh ben je vous attendais », etc. Et on commence pour une soirée câlin. Alors elle dit « Oui, effectivement, mon frère trouve que je suis morte et tout ça, mais moi je suis là, bien comme il faut ». Et en fait, le film va être un mélange de scènes où le type est voyeur de séquences terribles qui sont passées dans ce château et d'autres auxquelles il participe et qui vont, comme un éternel retour, revivre les mêmes traumas et les mêmes crimes. Il y a une ambiance totalement unique dans l'histoire du cinéma. C'est merveilleusement filmé, merveilleusement joué. Il faut absolument voir ce film avec la musique de Riz Ortolani, qui est aussi un grand musicien de films italiens.
Absolument. Et c'est donc, il y a un coffret collector magnifique
chez Artus. Avec
film,
en plus même un petit livret.
Et puis signalons aussi que Mad Movies, maison de confiance, a offert aux acheteurs de...
Offert pour un petit supplément, néanmoins.
Supplément,
on ne pouvait pas passer à côté de cette restauration en DVD. Néanmoins, et pour les personnes qui ne sont pas équipées, au moins elles peuvent voir le film dans les meilleures conditions possibles.
Merci à toutes et à tous d'avoir été ce soir sur le plateau de Mauvais Genre pour rendre hommage à David Lynch, qu'on peut retrouver dans un livre paru en poche, le livre de poche, L'espace du rêve, par David Lynch et Christine McKenna, à la fois une autobiographie et une biographie exhaustive. Il y a le numéro 390 de Mad Movies consacré à David Lynch, et puis Fais pas ton cinéma et autre histoire sans importance de Alain Fédry, c'est aux éditions Monotone, disponible en ligne. Et puis Artus Film, là aussi ils ont un site, vous pouvez parfaitement y aller.
Sinon en physique, hein, vous, sinon, faut aller physique. Dans les boutiques physiques, hein, si vous voulez qu'elle continue à exister.
Bien sûr.
Ben voilà,
bien sûr.
Allez dans les boutiques physiques. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Anthony Thomasson, Claire Poissignon, Sixtine Audebert, Edgar Poe, Claire Martin-Dugard, Philippe Rouillet, Fausto Fazulo, Stéphane Dumenildo, Mario Bava et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même motif, même punition, avec Laurent Polleret sur France Culture en compagnie de Valentine Losso. Et d'ici là, soyez pire que tous. C'est ce qu'on vous souhaite. Bonsoir à tous.